Bonjour à tous, alors on est sur Radio Canu 102.2. Aujourd'hui c'est une émission un peu particulière, c'est une émission ponctuelle autour des usages et des usagers de drogue. La dernière fois dans cette émission on avait parlé de la réduction des risques, de ce que c'était, les principes, on avait présenté un peu les différentes assos à Lyon qui participent à la réduction des risques, donc Rupture, Keep Smiling, tout ça. Donc on va continuer autour des pratiques autour de la drogue, et aujourd'hui on va parler de la substitution. Alors la substitution, qu'est-ce que c'est? C'est donc des traitements qui sont destinés aux personnes pharmacodépendantes aux opiacés. Donc en clair, à la base, aux personnes dépendantes à l'héroïne en particulier. Donc on parlera des deux produits principaux de la substitution, c'est-à-dire la buprénorphine au dosage, ou plus connue sous le nom de Subutex, et la méthadone. Donc pendant l'émission, on va revenir un peu sur l'historique, comment ça a apparu en France, la situation actuelle, et puis on écoutera quelques témoignages de personnes qui vivent la substitution de différentes manières. Des personnes qui avaient envie de s'exprimer sur le sujet mais qui sont pas forcément là aujourd'hui et qui n'avaient pas forcément envie de passer en direct mais qui ont été enregistrées en amont de l'émission. Voilà, donc on va commencer peut-être par un petit historique de la question.
C'est où je vais vous prendre le petit temps pour vous présenter la situation, pour bien se positionner. On est parti des lois sur la période 70, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a entamé, après, en 94, la méthadone. Il a fallu 20 ans à partir des années 70 jusqu'à 94 pour qu'il y ait la méthadone sur le marché, avec un programme expérimental qui prenait à l'époque que 52 personnes. Après, ça a été plus popularisé. On dit, bon, sur la 95 et 96, ensuite, le Subutex est apparu sur le marché et ça a été le truc où, en gros, les gens ont été amenés à choisir plus Subutex ou méthadone. Mais la méthadone était moins délivrée sur la totalité. Ensuite, il y a eu l'admission du Subutex en prison et sur la période, ensuite, on arrive... Après, sur les périodes 2008, où il y a eu l'attribution de la méthadone en cachet. Le sevrage était obligatoire avant d'accéder au centre de soins ou en post-cure.
Oui, c'est ça. C'est qu'avant qu'il y ait la substitution autorisée en tant que traitement, tout le monde devait... Enfin, pour pouvoir accéder à un centre de post-cure ou tout ça, il fallait forcément être sevré de l'héroïne, quoi. On n'acceptait pas les personnes... si elles étaient encore consommatrices, alors que maintenant, grâce à la substitution, les personnes peuvent consommer ces produits de substitution et en même temps intégrer des protocoles de soins ou des post-cures.
Oui, ensuite, maintenant on en arrive à une situation, c'est plus de 120 000 personnes qui sont sous substitution, et ça représente plus d'un tiers. Après, un tiers, c'est de toute l'Europe. Il y en a 35 000 qui sont sous méthadone et 85 000 sous Subutex. Une proportion de 80 et 20%. Et il y a eu l'apparition ensuite d'autres produits qui sont des dérivés morphiniques et qu'on trouve aussi qui se déblaient sur le souk de la rue. C'est apparemment... Avant c'était néocodion, maintenant c'est Skénan. Il y a eu l'apparition de ces autres produits qui occasionnent aussi pas mal de conséquences pour les personnes qui en usent ou qui en abusent.
Disons qu'avant l'arrivée de traitements officiels de substitution, les gens se débrouillaient un petit peu comme ils pouvaient avec les moyens du bord, et donc ils récupéraient des médicaments à base de néocodion pour pallier au manque. Voilà.
Voilà, c'est ça. Bah après, si on revient un peu sur, en gros, pourquoi la substitution, c'est quoi les grands principes et comment on en est venu à pouvoir avoir en France des médicaments pour substituer l'usage de drogue. Oui, exactement.
Ben, j'allais entamer justement. Il y a des grandes raisons ou des motivations. C'était surtout pour pallier à cette course effrénée après sa cinquième. Et voilà, les personnes, elles étaient toujours à la recherche de ce prod. Il y a le Médoc. La substitution, elle est faite pour ça. C'est sa raison même d'être. C'est on court plus après sa cam, on prend le sub ou la méthadone, ce qui nous permet de aussi reprendre un vrai rythme dans la vie, quoi. C'est aussi pour ça qu'on l'a institué. C'est mettre les gens sur une bonne voie.
Et retrouver une certaine maîtrise des consommations qui vont plus dériver éventuellement.
Mm-hmm. Mais il y a cette action aussi qui fait que...
Si je peux me permettre, donc, du coup, en fait, ça permet aussi une réintégration sociale. Voilà. Voilà, ça permet d'avoir un autre mode de vie et voilà, de pouvoir s'intégrer à la société.
Ouais, du coup, de casser un peu le rythme de recherche du produit qui prend tout le temps, tout l'argent, tout ça, et du coup d'avoir un produit de substitution pour se dégager de ça, ça enlève pas la dépendance en elle-même à un produit, à un opiacé, mais par contre ça permet de faire autre chose de sa vie, que tout ne tourne plus autour de ça, et du coup de potentiellement pouvoir construire autre chose à côté, quoi.
Parce que c'est sûr que dans ces logiques-là, on s'attache plus à ce qui est vraiment vital dans la vie. On est dans une course effrénée après le prod et on n'est plus dans une dynamique à retrouver le plaisir de vivre à chaque instant. Et l'échéance, elle est soit l'overdose, soit la prison, souvent.
Alors, en fait, ouais, dire pourquoi... Pourquoi ces molécules-là permettent de casser aussi ça? C'est pas tout à fait les mêmes molécules que les drogues en question. C'est-à-dire que c'est des molécules qui ont des durées d'action plus longues. Donc on peut prendre en une seule prise. On prend son Subutex le matin ou sa fiole de méthadone. Et ensuite, ça tient pour toute la journée. Donc on n'a pas besoin de faire plusieurs prises dans la journée. Il n'y a pas besoin d'avoir tout un rituel autour de ça, quoi. C'est une fois et voilà, tous les jours. Mais en une fois, et on a notre dose pour la journée, et du coup on n'a pas de manque, on n'a pas tout ça. Et c'est aussi des produits qui sont créés pour être moins intensifs, ça veut dire que si on les utilise dans le protocole en question, ça ne va pas défoncer, quoi. C'est juste pour rétablir l'état psychologique et physique normal, entre guillemets, et du coup de pouvoir après voilà, avoir un rapport à ça...
Quand tu pourrais dire, Alex, je sais pas, c'est on a une certaine sérénité ou un état plus tranquille au jour le jour, sans avoir toujours ce truc qui nous pousse au cul ou qui nous met dans la mauvaise dynamique à chercher une jouissance qu'on n'aurait pas autrement.
Là, du coup, on va écouter un petit entretien d'une personne, de Marie, qui va nous raconter un peu son parcours, comment elle en est arrivée à avoir une substitution et les enjeux de tout ça.
C'est d'abord parce qu'il y avait de moins en moins de bonheureux, donc je suis allée donc consulter un médecin qui m'a mise sous Subutex. Le problème, c'est que j'en faisais ce qu'on appelle un mésusage. D'une part, je l'injectais et d'autre part, je le fractionnais en plusieurs prises. Je prenais aussi d'autres choses à côté. J'étais donc très loin du processus de soins. Ça ne m'a posé un problème que quand mes mains commençaient à gonfler. Le stéréphile n'étant apparu que ma dernière année d'injection, il n'a pas suffi à les préserver. Il faut dire qu'au rythme de moins 5 injections de Subutex et donc d'amidon par jour, c'était difficile. J'ai donc songé à la méthadone. Ça n'a pas été facile car j'étais plus accro à l'injection qu'au Subutex en lui-même. J'appréhendais donc vraiment. Les premiers temps, j'ai essayé d'injecter la méthadone, mais c'est vraiment trop contraignant. Il paraît qu'on peut la transformer pour isoler le principe actif, mais moi, je ne faisais que la diluer. Mes veines étant déjà très abîmées, elles ne pouvaient pas supporter le nombre important d'injections qu'il fallait pour prendre finalement peu de produits. Je l'ai donc prise normalement, et dans la prise, je suis parvenue à un bon usage de la méthadone assez vite. Pendant un temps, comme je prenais de la coke, j'avais quand même mon quota d'injection. Mais quand j'en ai eu assez d'être à la merci de mon dealer, j'ai décidé d'arrêter. J'ai commencé aussi à diminuer toute seule la méthadone. Donc j'ai arrêté pour un temps les injections, Mais sans m'en apercevoir, j'ai peu à peu compensé par l'alcool. Petit à petit, donc j'ai recommencé aussi à injecter du Stilnox. Et je ne me suis pas vue dégringoler. Je suis vite devenue alcoolique. Tout ça pour dire qu'il faut être suivi si on veut que la substitution fonctionne. Être honnête avec soi-même et avec son médecin et savoir si on veut vraiment décrocher de la CAM et du mode de vie qui va avec. Souvent, il y a un déclic. Pour moi, c'est venu quand on a retiré la garde de mon fils. Sur le coup, j'ai trouvé ça injuste et j'ai encore plus perdu pied. J'ai vidé plusieurs bouteilles par jour. Je me complaisais dans mon malheur, je ne voyais pas les mains tendues. Jusqu'à ce que ça ne puisse plus durer. Pendant quelques mois, j'ai vraiment touché le fond, puis j'ai décidé de me faire soigner. J'ai entrepris un sevrage où on a réaugmenté mes doses quotidiennes de méthadone. J'ai fait deux postures de 2 mois chacune. Et voilà, donc il y a eu des rechutes, des moments difficiles, et je sais que le parcours n'est pas fini. Aujourd'hui, je vois un psy, un alcoologue en alternance 1 semaine sur 2. Mon médecin traitant me prescrit la méthadone et je diminue petit à petit avec son aide. Je viens de récupérer partiellement la garde de mon fils. Avec la substitution, on peut avoir une vie normale, se reconnecter à la réalité du monde, pourvu qu'on le veuille vraiment. Ce n'est pas facile, il faut s'entourer de professionnels, changer de fréquentation et d'habitude, mais c'est possible.
On voit que tout au long de ton parcours, du coup, tu as toujours, enfin, sauf à la fin, mais quand même pas mal été tenté toujours injecté, que ce soit en même temps que la méta, de la CAM ou la méta ou tout ça.
Ouais.
Parce que en fait, c'est dur de laisser de côté l'injection aussi quand on est sous substitution.
Ouais, bah moi j'étais vraiment accro à l'injection. En fait, ça me faisait, ça m'aidait dans les moments d'angoisse, ça m'aidait quand je m'ennuyais, ça m'aidait dans plein de trucs avant de sortir. On me faisait un shoot, voilà. Et c'est venu assez récemment en fait que je me suis dit ça suffit, j'aimerais bien récupérer des mains correctes. Je sais qu'elles ne reviendront pas super comme il faut, mais bon, si j'arrête pas d'injecter de temps en temps, je crois que ce sera jamais bien quoi. Et puis voilà, maintenant pour me faire des prises de sang, il faut me piquer là, dans la jugulaire. Donc, voilà, il y a un ras-le-bol quand même.
Au début, du coup, tu as commencé à prendre Subutex avec un médecin ou tu en avais déjà pris dans la rue
Ça m'était déjà arrivé d'en prendre dans la rue, ça m'avait rendu malade. Mais il faut croire qu'on est maso parce que j'en avais tapé quand même. Et à l'époque, je le sniffais. Et puis, quand je suis allée voir un médecin, c'était vraiment parce que je voulais arrêter l'héroïne. Alors que quand j'en prenais dans la rue, c'était de temps en temps pour combler quand j'avais pas assez d'héros. Donc c'est vrai que j'ai quand même eu je voulais plus prendre l'héros, c'est vrai que c'est parce qu'elle était figée dans la pompe, elle était vraiment, on se demandait ce qu'on prenait, quoi. C'était vraiment mais bon, c'est assez accessible dans la rue, c'est sûr.
Ouais. Du coup, en fait, toi, t'as vraiment ton envie de décroche, elle était aussi en partie liée parce qu'il y avait c'était de la mauvaise CAM.
Oui, au début, c'est ça qui a fait. Bah, pour moi, l'inconvénient du Subutex, c'était surtout lié au fait que j'injectais, parce que je pense qu'on peut réussir une substitution au Subutex si on le prend sous la langue, surtout qu'ils ont fait des génériques qui sont plus petits, donc plus faciles à garder en sublingual, parce que c'est vrai que c'est pas bon. Et sinon, bah, la méthadone, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'il faut faire attention, on peut être tenté, c'est quand même un opiacé. Enfin, le Subutex, il y a un palier, au bout d'un moment, on ne se sentira plus. Alors que la méthadone, on peut faire une overdose, si on en prend plus, on est plus défoncé. Donc c'est vrai qu'il faut être sûr de ce qu'on fait quand on se met au traitement de méthadone, je pense.
Et au niveau des effets physiques?
Disons que je sais pas, je me suis jamais défoncé à méthadone, mais je sais que ça se fait, mais moi quand j'ai commencé, j'étais en manque parce que quand on passe de l'un à l'autre, il faut faire 2 jours où on prend pratiquement rien.
Donc ouais, il faut accepter d'être en manque 2 jours.
Ouais, peut-être un peu moins, mais ça m'a paru tellement que... Mais ouais, parce qu'ils peuvent pas, Subutex plus méthadone, ça fait pas très ménage, donc... Voilà, si on passait de l'un à l'autre, et au début, ils donnent, au centre méthadone, au début, ils donnent 20. Même si ça ne suffit pas, on peut revenir dans la journée qu'ils nous redonnent 20, mais ils ne donnent pas beaucoup plus au début, pour être sûr, pour faire attention, quoi, pour être sûr qu'il n'y ait pas de surdosage.
Du coup, ça te met au manque au début?
Ben, au début, t'es pas très bien. Tu peux retourner l'après-midi pour en prendre si vraiment ça va pas. Et au début, on y va chaque jour, en fait. Au centre méthadone, tous les jours, donne pas de quantité de méthadone à ramener pendant un moment, en fait. On y va tous les jours. Je sais plus combien de temps, mais quand même un moment. Ils prennent vraiment beaucoup plus de précautions après méthadone.
Et c'est qui te l'a prescrit? Enfin, qui c'est que tu vois quand tu vas dans le
centre? Moi, maintenant, je... Ah, au centre méta, c'est des infirmiers, en général. Alors, il y a un médecin, mais franchement, on ne voit pas... Enfin, moi, je ne le voyais pas souvent. Si on demande à le voir plus, on le voit plus, mais... Moi, comme j'étais un peu réfractaire, je le voyais le moins souvent possible. Et donc, je suis passée, en fait, au médecin de ville, parce que je voudrais passer en cachet.
Méthadone en gélule.
Ouais. Donc, maintenant, voilà, je vois un médecin de ville. Mais là, oui, il y a une bonne écoute quand même de la part des infirmiers. Je les trouve très, très disponibles, très, très bien, très humains, très... Ouais, très bien.
La métagélule, c'est toi qui veux la prendre ou c'est eux qui te l'ont proposé?
Non, c'est moi qui veux la prendre parce que il y a beaucoup de sucre dans la méthadone. Et, voilà. Oui. Et puis, il y a quand même, mine de rien, aussi un petit peu d'alcool.
Oui.
Donc voilà, moi j'essaie un peu d'éviter l'alcool en général.
Voilà, alors après le petit entretien de Marie sur son parcours, on va reposer un petit peu le cadre, enfin le protocole de soins des deux médicaments proposés en France, méthadone et Subutex, enfin buprénorphine au dosage. Alors pour la méthadone, la délivrance est beaucoup plus contrôlée, hein, il y a un fort risque d'overdose, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus cadré. Alors pour accéder à la méthadone, on passe par les centres de soins hospitaliers ou associatifs, hein, donc aujourd'hui les XAPA en France. Il y a donc plusieurs rendez-vous psycho, travailleurs sociaux, etc., qui évaluent la situation, etc. Et après, la personne passe sous méthadone. Le médecin évalue le dosage adéquat et donc monte petit à petit les dosages pour arriver au dosage idéal pour la personne. Donc ça veut dire venir au centre de soins tous les jours, prendre sa petite fiole devant le médecin, il y a des analyses urinaires, etc. Alors les analyses urinaires peuvent être lues dans les deux sens, hein. Ça peut être vu comme un contrôle, ce qui devrait pas être le cas. Normalement, c'est vraiment pour aider le patient à se rendre compte de ses consommations, discuter autour de ses consommations, etc. Voilà. Et ensuite, donc le dosage, la personne n'a plus besoin de venir tous les jours, mais ça s'espace toutes les semaines, etc. Jusqu'à après avoir son traitement pour un peu plus longtemps. Voilà. Et au bout d'un certain temps, une fois que la personne est considérée comme stabilisée, il peut aller chercher son traitement en médecine de ville. Voilà. Pour le Subutex, par contre, c'est beaucoup plus souple le cadre de délivrance. Donc là, on peut directement aller voir son médecin de ville et avoir son traitement. Voilà.
On pourrait noter aussi, c'est que sur le Subutex, à l'origine, il y avait un protocole qu'on voulait instaurer, ou que les institutions auraient dû instaurer, et que le fait que ça soit trop dans le flou, beaucoup de personnes ont eu cette tendance à prendre beaucoup plus, et ou alors en faire un mauvais usage.
C'est vrai que beaucoup de médecins de ville, hein, les médecins généralistes qui prescrivent, ont pour le coup pas de formation ou peu de connaissances sur le sujet, et là c'est vrai que c'est un réel point, enfin c'est très embêtant pour les gens sous Subutex, là ça manque de suivi à ce niveau là
et c'est vrai aussi par rapport enfin on entendait Marie en parler ou qu'il y a aussi la grosse différence entre Subutex et méthadone, même si les deux sont en pratique injectable, c'est vrai que beaucoup plus de personnes sont tentées d'injecter le Subutex aussi, parce que la forme s'y prête plus et que la méthadone a vraiment été conçue, donc c'est un sirop pour ne pas pouvoir être injecté. Et il se trouve, on parlera un peu des mes usages après. Là, on va écouter un petit entretien justement d'une personne qui explique du coup pourquoi... Au début de l'entretien, elle explique pourquoi elle a pris de la méthadone alors qu'elle savait que si elle prenait du Subutex, elle allait l'injecter et que ça l'aiderait pas à décrocher de l'injection.
Juste un petit truc, je voulais dire, la méthadone, c'est 14 jours maximum. On l'a pour 14 jours maximum.
Dans la prescription,
et, ouais. Et le Subutex, c'est un mois. Voilà.
En fait, parce que le médecin Perrault, il est mort. Et vu qu'il n'y avait plus de scans, je ne trouvais plus de scans, je me suis dit, de toute façon, le seul moyen, de toute façon, c'est une bonne raison pour arrêter. J'ai dit, vas-y, je vais à l'hôpital, de toute façon, je n'ai pas le choix, de toute façon. C'est pour ça que je suis allé prendre un traitement de substitution. S'il était encore vivant, j'aurais jamais pris le traitement de substitution, de toute façon. Donc, en fait, c'est un mal pour un bien, quoi. C'est un mal, ouais, c'est pour ça, et même c'est mieux, de toute façon. Hein. Parce que je commence à plus, plus avoir de veine, plus. J'ai dit, vas-y, de toute façon, c'est le bon moment pour arrêter.
Parce que tu voulais prendre quoi au départ?
Le scan.
Mais pour arrêter le scan, tu voulais prendre Subutex ou...
Non, la méthadone. Ouais. Bah non, Subutex, de toute façon, je serais remis au même point qu'avec le scan. Donc, j'ai dit, la méthadone, c'est mieux. Même malgré qu'avec la méthadone, on peut revenir au même point qu'avec le scan, de toute façon. Les cas, de toute façon, on peut forcément... Donc voilà.
Et comment ça s'est passé, du coup, quand t'es allé à l'hôpital?
Ouais, ça s'est passé super mal.
Ouais.
C'était la misère, ouais. Et ouais. Ils m'ont commencé à 10 mg, après 20, après 25, après 30. En fait, ils m'ont fait souffrir, quoi. Alors que j'avais besoin de 60 et ils n'ont pas voulu me donner 60 d'un coup. Parce que j'étais à 1200 mg de scan. Et donc voilà, quoi. C'était l'horreur. La pire semaine de ma vie, quoi.
Du coup, t'étais en manque pendant la semaine et tout,
hein. Ouais, toute la semaine, ouais.
T'as vu qui là-bas comme professionnel?
J'ai vu un médecin, infirmière, psychologue. Ça a pris un mois. Un mois pour rentrer dans le traitement. Quoi.
Elle est bien à ta bonne dose?
Non, même pas, non. Pour commencer à 10.
D'accord, t'as mis un mois pour avoir
10 mg de méta. Pour après, à la fin, pendant une semaine, tomber à 60 mg. Quoi. Et la misère. Quoi. Mais bon, ça va être un truc, faut se remettre dans un autre truc. Quoi. Dans tous les cas, pour moi, c'est la même merde. Hein.
Ouais, tu le vois comme ça?
Ah ouais, carrément, ouais. Enfin, pour moi, je vois comme ça. Hein.
Parce que tu imagines pas là pouvoir arrêter la méta?
Bah, ça me... Arrêter la méta?
Ouais.
Bah, déjà, je pourrais l'arrêter parce que de toute façon, ça me saoule de prendre ce traitement. J'ai de plus en plus de mal à l'avaler, le goût, tout. Quoi. C'est l'horreur, quoi. C'est de la merde.
Ouais.
Franchement, c'est de la merde. Franchement, c'est de la merde. En même temps, moi, je me dis, c'est plus ils donnent ton traitement pour que tu fermes ta gueule. Ils ont mis les mains basses sur le truc. Ça se prend contrôlé, tu vois. C'est un peu de démagogie, mais c'est tout à fait ça, tu vois. Tiens ton traitement et ferme ta gueule, quoi. Et c'est exactement ce qui se passe en même temps. Hein. C'est ça. Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. Après, bah, ça peut dire que c'est de la démagogie. En même temps, moi, je le vois comme ça. Hein.
La justice ou quoi, est-ce que... Selon les flics sur qui tu tombes, ça se passe plus ou moins bien?
Dans l'Espagne, ils m'ont gardé.
Ah ouais?
Ouais, ils n'ont pas voulu me la vendre. Alors que j'avais tous les papiers en règle et tout, mais juste pour me faire chier, ils m'ont gardé ma méta, quoi. Juste pour me faire chier, tu sais. Et non, aussi en France, non, ça va.
Ouais, t'as jamais eu de soucis?
Hein. Si t'as ton ordonnance et tout, de toute façon, ils ont rien le droit de te dire. Hein.
Ouais, faut avoir son ordonnance sur soi tout le temps, quoi.
Bah, si t'as pas ton ordonnance, ils t'embarquent, tu vas au poste, et suivant quelle heure c'est. Bah t'es niqué, tu restes toute la soirée au commissariat jusqu'au lendemain qu'ils appellent ton XAPA pour... Donc voilà, alors que t'es en règle, hein.
Mm-hmm.
Bah non, t'es pas en règle parce que t'as pas tes papiers sur toi, donc en même temps... Bah t'as pas l'ordonnance, t'as pas le droit de te balader avec ça. Mm-hmm. De toute façon, même à la limite, te balader ton traitement sur toi, c'est ridicule, tu vois. Bah t'es censé le prendre après si t'as la rue, ouais, je vois. Mais bon, moi je suis pas à la rue, donc je vais pas me balader avec les trucs.
Ou si tu te déplaces, genre tu pars 3 jours, du coup t'as tes...
Ouais, voilà, ouais. Quand je suis parti en Espagne, la Guardia Civile, ils ont gardé ma méthadone.
Pour tout ce que t'avais pour...
Là, j'en avais caché, parce que je le sentais mal. Je le savais. Je voyais qu'ils dépouillaient toutes les voitures à l'entrée du Technival. J'ai dit, bon, allez, j'en ai mis sous les sièges, ils ont pas passé les chaînes, ils n'ont pas senti, de toute façon, la méthadone, ça s'est fait.
T'as géré du coup les doses qui te manquaient
Ouais, j'ai pris des rôles là-bas, quoi.
Ouais.
Ouais, là, si, ça va, j'ai géré. Parce que moi, j'arrive à pas la prendre pendant 3 jours, tu vois, ça me dérange pas. Enfin, c'était un jour, 2 jours, 3 jours, après, au bout de 3 jours, je suis obligé d'en prendre, tu vois, mais ça va, ça tient, tu vois.
Ouais.
Ouais, carrément, ouais. Sinon, encore, ça tient 48 heures, de toute façon. Après, ça dépend des gens.
Il y en a, enfin, je sais pas comment on dit, ils apprennent moins bien que...
Ils métabolisent.
Ouais, métabolisent. Ouais.
Par rapport à la prison, je sais pas si t'as déjà eu besoin d'un traitement en substitution en prison ou pas, comment ça se passe.
J'en ai fait un quand même.
Ouais.
Pour dire comment en prison c'est, ils sont graves, c'est juste pour te donner des cachets, pour que tu fermes ta gueule, quoi. Je crois que je vais faire battre des magots, mais moi je suis allé voir un médecin en prison, je lui ai dit voilà, je veux du sucre, parce qu'en fait j'avais pas d'argent. Et je me suis dit, le seul moyen d'avoir de l'argent en prison, c'est je vais voir le médecin, je lui dis, je suis sous Subutex, et il me donne du Subutex. Je suis allé voir le médecin, je lui ai dit, voilà, je prends de l'héroïne, alors que franchement, j'en connais, mais j'en avais pas besoin. Le mec, il a même pas cherché à comprendre le médecin, il m'a donné du Sub, sans savoir si j'en avais déjà pris, si j'en prenais, ou si j'étais vraiment toxico, quoi. Pour dire comme c'est grave, quoi. Et il m'a donné 16 mg par jour de Subutex à quelqu'un que je prends 16 mg, je suis mort sur le coup. Hein. Pour te dire, en prison, c'est abusé, quoi.
Et du coup, tu leur
fourres. Ouais, ouais, en cours, presque troqué, ou je le fumais. Ou... Mmh. Temps en temps, quoi.
Ouais, donc là, toi, tu disais que, en fait, la méta, ça, tu prends ça comme, comme une dépendance.
Sauf que tu ne fais pas trop, mais bon, franchement, et même là, ils ont fait tellement des traitements de substitution deux fois plus puissants que la drogue qui tourne, à la limite. Il y a même des gens qui n'ont jamais pris d'héroïne et qui prennent de la substitution parce que ça te dépense plus que de l'héroïne qui tourne en France. Donc,
ouais, que de la mauvaise héro.
Ben, même que de la bonne héro, tu vois. La méthadone, c'est plus fort que de la même de la bonne héro. Enfin, celle qui tombe, quoi, tu vois. Franchement, quelqu'un qui n'a jamais pris de méthadone, il prend 40 de méthadone, il tombe sur le carreau net. Hein. Mm-hmm. Quelqu'un qui n'a jamais pris d'héro, il prend un gramme, il va pas mourir, tu vois. Elle va pas se sentir très bien, je pense, mais ouais, parce que tu te piques pas, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est que l'avantage pour toi, c'est de...
Ouais, mais bon, ouais. C'est dépendant de quelque chose. Tu veux partir deux semaines, il te faut ton traitement. Si tu pars plus de deux semaines, il faut une dérogation de la date, faire des papiers, enfin voilà, c'est la misère, quoi. En plus, ça me bouffe toutes les dents. Pour avoir les gélules, il faut attendre un an de traitement en étant négatif à tous les... Enfin, c'est la misère, quoi. Tu vois ce que j'ai envie de dire? C'est de la merde.
Plus que la calme ou...
Là, mais après, voilà, ça dépend comment tu le prends. Si tu le prends pour te soigner, voilà. Moi, je l'ai fait, ce traitement, c'était pour me soigner à la base, tu vois. C'était pour vraiment... OK, parce que mes perros, ils sont morts. Je me suis dit, ouais, bon, je suis obligé de le faire. Après, j'ai bien réfléchi. De toute façon, je pouvais pas continuer comme j'étais, de toute façon. À me piquer tous les matins, le midi, le soir, toute la journée, tu vis que pour ça, tu fais la manche pour ça, après tu te casses tout le temps à courir après ton produit, après une fois que t'as ton produit, bah, après tu te fais des trous, après t'as plus de veille, enfin voilà, c'est la misère quoi. Donc quand même, si c'est un peu mieux que... Après ça dépend comment tu le prends. Si tu le prends dans ta tête pour te soigner, ouais, après il y en a, la plupart ils le prennent, c'est pour pas être en manque, et à côté ils se défoncent, tu vois. À 60% des gens, c'est ça qu'ils font. Hein. Quand t'as pas de méthadone, t'es plus en chien, t'es encore plus malade que si t'avais pas d'héroïne. Hein. À la limite, moi, je connais même des gens qui sont remis à l'héro pour décrocher du Subutex ou de la méthadone. C'est pour dire quand même que c'est grave, quoi. Vraiment, ouais. Mmh. Je connais des gens, ils ont jamais pris... Ou je connais des gens, ils ont jamais pris d'héroïne, mais ils prennent du Sub. Ils ont jamais pris d'héroïne.
On commençait par le Subutex.
Ouais, donc, ouais, enfin... À la limite, c'est une drogue légale qui tombe sur le marché. Comme ça, eux, ils contrôlent le marché. Les dealers de cam, ça les a... De toute façon, ça a mis un coup... Ça a niqué quand même. Hein. Pendant un moment, ils ont mis ça sur le marché. Tous les gros dealers de cam, ils étaient dégoûtés. Hein. Parce que de toute façon, le produit était plus puissant que la cam qu'ils vendaient. Donc les gens, ils font quoi? Ils vont prendre le vélo. Mais ça, c'était au début. Maintenant, c'est plus comme ça, tu vois. Mais au début, c'était vraiment... Donc voilà. Là, enfin voilà, si c'est bien, c'est pas. En fait, il y a du bon, il y a du mauvais dans la substitution. Tout dépend comment la personne vient de le prendre, quoi. Enfin, moi, je le prends comme ça, après, voilà. Mais bon, quand même, je me sens mieux avec la méta que quand j'étais sous scène, quand même. Sous scène, après, t'as un zombie, hein, t'as un gramme de scène, tu planes, quoi. Alors que pour toi, t'as pas l'impression de planer, quoi. Mais quand on te regarde de l'extérieur, en fait, t'es complètement défoncé, quoi. Mais bon, t'as pas l'impression, quoi.
Du coup, avec la méta, t'as plus ça, quoi.
Bah, en fait, la méta, ça te défonce pas. Enfin, quand t'es accro à notre place, la méta, ça te fait rien. En fait, psychologiquement, ça te fait rien, quoi. Enfin, dans la tête, ça te fait rien. T'as pas d'effet spécialement. À part si t'es pas accro aux opiacés, tu prends de la méthadone.
Ouais, si tu prends une grosse dose, alors que...
Bah, ça m'est arrivé de prendre 400 mg de méthadone et pas être défoncé, quoi.
Ah ouais.
Être un peu speed, tu vois, mais pas...
Pas plus défoncé que ça, quoi. Que...
Ok, avant de réagir un peu à tout ça et de parler du coup des ce qu'on appelle les mésusages, c'est-à-dire le fait de prendre des traitements de substitution hors cadre, donc pas prescrits, par exemple de les acheter dans la rue ou de se les injecter, on va faire une petite pause musicale et on va s'écouter Serge Gainsbourg, Lady Héroïne.
On vient de passer donc Gainsbourg et donc je voulais quand même dire que la substitution c'est pas une fin en soi, c'est un traitement qui doit être diminué petit à petit, donc sans effet de manque, avec l'accompagnement de professionnels de santé pour quand même arriver à l'abstinence au bout d'un moment quoi.
En effet ouais. Théoriquement, c'est avec le toubib et le psy qui règlent le dosage suivant les analyses qu'ils font sur les premiers temps qu'on va à OCSST ou c'est ça non.
Donc, ça part maintenant.
Oui, ça part.
Mais après, c'est vrai que l'abstinence, ça peut être un but quand on commence. Ça peut aussi ne pas du tout être un but quand on commence la substitution. Et puis, il y a des personnes qui vont rester des dizaines d'années sous méthadone. Il y a des personnes qui ont 65 ans et qui sont encore sous méthadone et finalement qui vivent très bien comme ça et qui seraient beaucoup plus mal d'arrêter que la vie qu'elles mènent sous méthadone.
Après, c'est comment on l'envisage aussi, non ? Qu'est-ce que t'en dis, Nina ?
Ouais. Après, c'est ça, c'est que chaque personne a son parcours par rapport au pourquoi de sa substitution et à qu'est-ce qu'elle va en faire par la suite. Quoi.
C'est pour ça que viser à tout prix l'abstinence, oui, ça, pourquoi pas, mais bon, Pas forcément. Il y a des gens qui ont besoin de leur traitement, qui en auront besoin toute leur vie. Et pourquoi pas, après tout, s'ils arrivent à bien vivre comme ça, avec leur traitement de méthadone à vie, pourquoi pas?
Après, la vue de l'abstinence, c'est aussi un point de vue moral de ce qu'ont les institutions, l'État. Le fait de consommer encore avec même les substitutions, ou que la substitution des fois peut être un frein aussi aux dynamiques qu'on a dans la vie, si c'est vraiment quelque chose qui nous désocialise, si c'est quelque chose qui nous rend pas bien à la fois dans notre tête, dans notre slip, dans notre basket, encore moins sous la couette.
Voilà, comme disait Steve, c'est un bien pour un mal, effectivement, on prend en place un produit par un autre, mais bon, un produit, effectivement, légal, distribué, effectivement, on peut dire par des médecins en blouse blanche si on veut, des dealers en blouse blanche si on veut, on peut dire plein de mal, mais bon, ça permet à plein de gens de se stabiliser, de passer à autre chose, de regarder la vie d'une autre manière. Donc voilà, c'est un peu au cas par cas, en fonction des gens.
Puis le monde est tellement beau et il faut bien vivre d'amour et d'eau fraîche.
Ok, si on en revient un peu donc aux usages un peu différents qui peuvent être faits de ces traitements, méthadone et Subutex. Alors, beaucoup de personnes qui l'ont dit, qui soit ont débuté aussi leur consommation de drogue avec ces produits-là, enfin qui ont commencé en consommant du sub, ou alors qui ont consommé du sub pas tellement comme un traitement substitution, mais plus comme une défonce, donc souvent en l'achetant dans la rue, comme première consommation de drogue en fait, ou alors même en plus d'autres drogues, donc des personnes qui peuvent prendre de l'héroïne et à côté du sub aussi, ou prendre tout un tas d'autres drogues et en plus du sub comme autre défonce, ou alors des personnes qui ne prennent pas du Subutex prescrit par un médecin mais qui le prennent quand même pour se substituer et qui l'achètent dans la rue avec ce qu'on va dire une initiation par les pairs, et ce truc là peut déboucher sur un protocole de soins par la suite, c'est pas non plus incompatible.
Donc en fait le mésusage peut être, même si c'est pas terrible au départ, ça peut déboucher par la suite sur quelque chose d'un peu plus intéressant.
Ça peut permettre à la personne de prendre conscience qu'elle avait une dépendance, ou alors qu'elle avait un besoin, et l'orienter ensuite sur les politiques de substitution.
Mais, officiellement, elle a rentré dans un protocole de soins officiellement.
Le blème il est aussi, c'est que les personnes qui n'ont jamais eu contact avec les drogues dures ou même douces, et qui rentrent directement en contact avec ces substituts.
Alors oui, ben là, ça fait partie aussi de notre travail à Rupture, d'informer quand même les gens, notamment quand on tourne dans la rue ou qu'on fait des stands, d'expliquer un peu ce que c'est. Hein. Il y a des flyers très bien faits par l'association ASUD à Paris, autosupport pour usagers de drogue, par rapport à cette molécule. Hein, donc c'est important d'en parler. Effectivement, c'est un médicament de substitution, c'est pas une défense, il faut faire attention, on peut en devenir accro.
Et aussi, il faut faire attention sur les autres produits qu'on consomme en même temps, parce qu'il y a des choses qui font pas bon ménage du tout, et il y a des gros risques d'overdose ou des gros risques au niveau de la santé de mélanger des traitements de substitution et d'autres opiates.
Là, on rentre dans le thème des polytoxicomanies, des multi-consommations, et on voit bien ce que ça enchaîne.
On l'a dit, hein, pour la méthadone par exemple, c'est pour ça que le cadre est serré, la dose létale, on disait 40 mg, donc si on prend de la méthadone, plus de l'alcool, plus, là il y a des risques importants d'overdose, voilà, qui sont moins importants avec le Subutex, hein, bien que le Subutex mélangé avec l'alcool et des benzodiazépines, et ben là aussi il y a des risques, donc c'est sûr, oui, il faut faire attention.
Tout en considérant, tant que ça se passe pas à l'insu de ton plein gré, quoi, ouais, c'est... S'il y a une poudre quelconque qu'on a coupée avec un matériel de substitution, la personne est déjà sous méthadone, voilà, au lieu de taper ta cocaïne ou ta kétamine, tu te retrouves avec
du Subutex.
Et toutes les conséquences qui vont avec.
Ok, pour faire la transition avec tout ça. Non, tu
voulais... Oui, ben non, parce qu'on parlait, là, on est un petit peu dans le mésusage. Donc, effectivement, on trouve des. Il y a un certain nombre de gens. Enfin, on trouve de la substitution dans la rue, ça s'achète, ça se vend. Il y a des gens, effectivement, qui l'injectent, enfin, injectent d'ailleurs les deux. Bon, moins la méthadone, c'est plus compliqué et certainement plus dangereux. Le Subutex aussi, c'est pas des médicaments qui sont faits pour être injectés, donc forcément il y a des répercussions au niveau de la santé, hein, notamment les médicaments des excipients. Donc les excipients ont des répercussions sur le capital veineux. Voilà.
Oui, ce qui enchaîne souvent, joueur d'abcès ou à l'extrême, ablation d'un membre, parce que c'est le petit élément d'amidon qu'il y a dans ses cachets qui fait que le truc ne sera pas bien dilué, et quand on l'injecte, forcément ça occasionne une grosseur sur la veine. Et à la longue, ça obstrue les veines, c'est ça, non?
Oui, c'est ça.
On en arrive à scléroser toutes les veines.
Ben ça, c'est le danger, effectivement, de l'injection de celui-là, au moins de médicaments, mais dans tous les médicaments, il y a des excipients, donc ça, ça fait partie des risques, hein, oui. C'est pas un traitement qui est fait pour être injecté, normalement.
Voilà. Et dans l'absolu, c'est vrai, il faudrait jamais qu'il le soit. Et dans la prévention, qui est nécessaire aussi.
Et ben justement, pour faire la transition avec ça, on va écouter un petit entretien de quelqu'un qui, pour le coup, injecte son Subutex.
La première fois que tu as pris du sub, c'était quand, comment?
Quand j'ai voulu faire ma première tentative pour arrêter l'héro, et c'était il y a 4 ans environ. C'est des gens qui m'ont conseillé de prendre du sub. Moi, au tout début, le sub, je n'aimais pas trop. C'est pour ça qu'après, je suis passé à la méta. Et du coup, je suis revenu au sub, au final, parce que je préférais le sub, en fait, que la méta. Donc ouais, c'est des gens qui m'ont conseillé, je m'en allais au sub.
Pourquoi?
Pour la facilité, pour l'effet aussi, et pour pouvoir en prendre plusieurs fois dans la journée.
Et c'est pas un médecin qui te le prescrit?
Non, je le chope dans la rue. Ce qui n'est pas très cool. C'est plus facile d'aller voir un médecin que dépenser plus d'argent dans la rue, alors que je pourrais l'avoir gratuitement, en fait, tout simplement. Voilà.
T'as jamais imaginé prendre de la méthadone, dans ce cadre-là?
J'ai pris de la méthadone pendant environ 7 mois. J'ai arrêté parce que le mode de prise ne m'intéressait pas. Enfin, j'aimais pas le goût, déjà. Ça me donnait mal à la tête, ça me donnait mal au ventre, et vu que je la prenais dans la rue, et ben au niveau des milligrammes, je savais pas trop combien de milligrammes fallait que je prenne, si c'est du 40, si c'est du 60. Donc du coup j'ai lâché l'affaire, et pour moi le sub c'est beaucoup plus simple.
Voilà. Ok. Et t'as toujours consommé un peu d'autres choses à côté aussi des produits de substitution?
Ouais, j'ai toujours consommé un peu d'autres choses. Depuis que j'ai commencé le sub et tout, au niveau opiacé, j'ai beaucoup réduit. Et après, oui, je consomme d'autres choses.
Ouais. Sur le fait que tu l'injectes, le Subutex, t'as dit que c'était par facilité et tout. Est-ce que tu l'as déjà pris aussi sous la langue?
Non, je l'ai jamais pris sous la langue. Si, je l'ai pris en trace. Non, je l'ai jamais pris sous la langue.
Okay. Donc c'est vraiment l'injection qui te plaît le plus, quoi.
Enfin, ouais. Bah, tous les produits que je prends, en général, je me les injecte. Donc voilà.
Par rapport aux inconvénients, aux avantages que tu trouves dans le sub?
Déjà, vu que je le prends dans la rue, c'est beaucoup moins cher que la méta. Déjà, pour commencer...
Ouais, tu le touches à combien à peu près par rapport à la méta?
À 2 euros.
Ouais.
Le méta, ça peut se vendre de 5 à 15 euros. Et il y a plus de gens qui vendent du sub que du méta aussi. Et voilà. Mais au niveau des avantages, il n'y en a pas énormément, de toute façon. Il n'y en a pas énormément, à part le prix et la facilité à trouver. je vois pas d'autre chose.
Ouais, sur ouais. Les sensations, c'est...
Sur les sensations, moi je me l'injecte et j'ai jamais eu aucune montée au sub, aucune... Enfin, j'ai jamais... Je suis jamais resté scotché à mon canapé avec du sub, hein, je veux dire, hein, moi j'en prends pour rester normal, enfin, pour être normal. Après... Après, voilà, c'est pas... Enfin, je sais pas.
Et dans l'idée, t'aurais dans l'idée de diminuer ou d'arrêter
ou... Ouais, j'aurais dans l'idée de... Ouais, j'aurais bien aimé surtout diminuer. Parce que je suis à 32 mg, ça sert à rien du tout. Et je dépense bien plus d'argent que j'en ai déjà. Et que je devrais en dépenser par rapport à ça. Donc ouais, j'aurais bien aimé diminuer dessus.
Et qu'est-ce qui te fait hésiter, là, la peur de, enfin, de d'augmenter les autres prods si tu diminues le sub ou...
Non, je sais pas, je pense que je le fais, je pense que c'est l'habitude qui me fait peur en fait. Vu que je suis habitué, j'ai peur de... Je sais pas, j'ai peur de diminuer. Enfin, je sais pas, en fait, j'ai peur que ça change quelque chose. Au final, ça change rien, mais... Je sais pas, je le fais par habitude en fait. Qui m'ont conseillé.
Après, je sais pas, si t'as envie de dire autre chose sur qu'est-ce que tu penses du système de substitution en général, par rapport à toi, ce que tu vois pour toi, mais aussi ce que tu vois sur les gens autour, peut-être.
Je sais pas, qu'ils nous fassent plus chier quand on y chope dans la rue, quoi. Ça m'est arrivé de me faire arrêter deux fois sans ordonnance avec du sub. Au final de me retrouver en garde à vue et de pas avoir mon sub pendant minimum 12 heures quoi, et c'est assez emmerdant quoi.
Tu t'étais fait arrêter parce que t'étais en train d'acheter du sub?
Ouais. Enfin bah, ils m'ont pas vu en train de l'acheter quoi, mais je me suis fait contrôler, j'avais du sub et vu que je vais pas devoir un médecin, j'ai pas d'ordonnance.
Ouais.
Et du coup bah ça passe pas quoi. Donc c'est assez ennuyant. Voilà ce qu'il faudrait changer.
Bon. Oui, on voulait réagir avant de passer un petit morceau de musique. Par rapport à ce qui a été dit là à l'instant, effectivement, il y a des gens qui sont dépendants à l'injection, et donc, quel que soit le traitement de substitution, ils auront besoin quand même de s'injecter. Voilà, c'est un travail qui... Ça se travaille avec un médecin, avec une équipe, etc. Voilà, on ne peut pas forcément se débarrasser de l'injection comme ça en deux minutes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les substitutions qui existent, quelles qu'elles soient, en France, sont pas forcément adaptées. Hein. Donc il y a des gens, effectivement, qui vont les détourner et les injecter. Donc c'est pour ça que dans d'autres pays, il y a d'autres types de substitutions qui existent, qui sont injectables, et donc ce qui provoque pas les dégâts qu'on peut voir avec la buprénorphine, par exemple, injectée. Voilà, il y a des choses en Suisse, il y a des choses en Belgique, il y a des choses dans plein de pays.
Dans nos voisins européens, voilà, qui font peut-être pas mieux les choses, mais qui les font différemment.
Voilà, exactement. Donc ça, effectivement, c'est des choses qu'il faudrait qu'on ait en France pour des gens qui sont pas prêts à arrêter l'injection pour le moment. Voilà.
Moi, je voulais dire un petit mot autour de la prison quand même, parce que c'est quand même un cadre bien particulier sur cette question-là. Tout à l'heure, enfin dans l'historique, on disait début de l'autorisation du Subutex en prison, donc 97. Donc avant, le passage en prison, bah, c'était sevrage obligatoire, quoi. On pouvait bien être dépendant tout ce qu'on pouvait à l'héroïne. On tombait en prison, il n'y avait pas bien le choix, quoi. Juste du coup pour rappeler un peu le lien entre la drogue et la prison qui est assez fort, 75% des détenus ils le sont pour infraction à la législation sur les stupéfiants quand même. Et on estime à peu près à 35% des détenus qui sont des usagers de drogue. Alors ça comprend aussi le cannabis, donc voilà, c'est assez relatif, mais bon, voilà, la question de la consommation de drogue, en particulier de médicaments en prison, elle est quand même assez importante. Ce qui tourne en particulier, c'est tout ce qui va être benzodiazépine et les traitements de substitution, donc prescrits par le médecin ou alors qui se revendent à l'intérieur, notamment le Subutex. Beaucoup de personnes commencent la prise de Subutex, on va le dire comme ça, en prison pour la première fois, soit c'est la première fois qu'elles ont affaire à la substitution étant déjà consommatrices de piacés avant, soit c'est la première
contact
avec un produit, on va dire, avec un produit de défonce de ce type-là, et ben ce sera en prison, quoi. parce que ça circule beaucoup, parce que comme le disait quelqu'un dans un des témoignages, il consommait un peu, mais il en avait pas spécialement besoin. N'empêche qu'arriver en prison, échappatoire ou moyen de se faire un peu de thune, c'est de se faire prescrire du Subutex et puis de le revendre à l'intérieur. Alors en plus, évidemment que ça se revend bien et beaucoup plus cher qu'à l'extérieur, si on l'imagine bien. Sinon, un peu au niveau des chiffres, il y a à peu près 2% des détenus sur toute la France qui sont sous méthadone et 7,5% sous Subutex. Ça correspond en partie à la proportion 80%, 20%, donc 80% Subutex, 20% méthadone. Oui, c'est plutôt 9% sous Subutex, les chiffres actuels. Les politiques par rapport à ça, il faut savoir qu'elles sont différentes selon chaque établissement. Ça veut dire que dans chaque établissement, on ne trouve pas les mêmes protocoles. Il y a des établissements qui axent spécifiquement sur Subutex et d'autres sur la méthadone. Il y a des établissements qui prescrivent pas du tout de méthadone, ce qui, on l'imagine bien, crée des trucs un peu compliqués quand on est transféré d'un établissement à un autre. Voilà. Parfois aussi.
Tu voudrais dire si on est transféré, et il se peut qu'on se retrouve en situation de sevrage obligé ou de manque. C'est.
Ou de passer d'un produit à un autre sans avoir le choix. Voilà.
C'est ça. Mmh. C'est ça. Et parfois, le traitement de substitution en prison, il arrive parce qu'il y a eu une obligation de soins, on va dire, dans le jugement. Alors, faut savoir que le soin, ça peut pas être on peut pas nous imposer un soin physiquement, comme on peut pas contraindre quelqu'un à travailler. C'est censé rester un droit. Par contre, il y a ce qu'on appelle un régime d'incitation qui fait qu'il y a tout un ensemble de choses qui vont dépendre de cette acceptation du soin, notamment, par exemple, les remises de peine. Si le détenu, en gros, il doit montrer que c'est un bon détenu. Si on lui prescrit un soin et qu'il le refuse, tout ça, il peut se voir refuser aussi ses remises de peine. Donc c'est tout l'euphémisme du régime d'incitation. Alors pour ça, par contre, il faut quand même apporter la preuve que il y a effectivement un soin qui est demandé, qu'il a bien été proposé aux détenus, parce que parfois, pour raison de budget, de personnel, de tout ça, finalement, il peut pas avoir accès ou à la méthadone ou à tout ça, et qu'il faut aussi prouver que le détenu l'a refusé. Mais en attendant, ça rentre quand même dans la politique d'incitation à la substitution, en tout cas à ce niveau-là, et que le détenu doit montrer en gros qu'il est disposé à se soigner, à se sevrer, etc., pour avoir pour être bien vu.
Tout ça, on pourrait l'expliquer par la volonté de l'État de faire de généraliser cette camisole chimique et de faire croire aussi aux détenus que c'est une bonne voie pour sa future sortie ou une bonne voie tout simplement pour être le gars qu'on veut quand il est en cabane. Ensuite dans la société, forcément. C'est un bon dressage, non? C'est un dressage policier pour garder les choses plus normales. Qu'est-ce que vous en pensez, Alex, mon cher? Du côté médical, est-ce qu'on pourrait dire qu'on peut faire confiance au côté médical aussi dans le pénitentiaire?
Consommer des produits, c'est pas bien du tout. Donc forcément, il faut arrêter. Voilà, il faut rentrer dans un protocole de soins.
On fait une petite pause musicale quand même. On s'écoute Mano Solo, Au creux de ton bras.
Ça fait des heures que tu l'attends. T'as mal aux os, t'as mal au dos. Tu transpires, c'est pas parce qu'il fait chaud. Et tu trembles, c'est pas parce que t'as froid. Et tu l'attends, le salaud. Il prend son temps, il sait qu'il aura ton argent. Tu ferais n'importe quoi pour avoir ton petit kepa. De loin, sale petite gueule d'enculé, que t'es sûr que ce mec là il va t'arnaquer. Mais déjà tu flippes comme un chien, de peur qu'il ne te dise qu'il n'a rien. Et quand il tend sa merde avec mépris, tu vas même jusqu'à lui dire oh merci. Et là pour toi c'est la fête. Et là avec l'eau de la cuvette tu prépares ta petite dinette. Et quand enfin tu plantes ton pieu dans ton bras devenu noueux et que le rouge se mêle au blanc, c'est la fin du tourment. Tu la sens maintenant. Oh, retourne-moi. Même plus qui t'étais avant, du temps où t'avais des couilles, où t'étais fier, du temps où t'avais même des rêves. Et tu piques du zen dans la rue. J'ai comme envie de te botter le cul, mais j'ai bien trop peur de te casser en deux, tellement que t'as l'air d'un petit vieux. Avec la femme, elle est trop vieille pour toi.
Monsieur Nina, en effet, on arrive sur la fin et je suis heureux d'avoir passé ce moment avec Alex et Nina pour
cette, et Marie.
Oui, et Marie aussi, mademoiselle, pour cette tribune populaire sur les substitutions. Après, moi j'en avais noté peut-être quelques grandes trajectoires ou des idées comme. Est-ce qu'on veut vraiment cibler les gens comme utiles ou inutiles à la société? Et c'est aussi dans ces termes-là qu'on les rend plus utiles quand ils sont plus policés avec tel médoc. Est-ce que c'est à leur profit aussi dans leur santé? Avec un petit peu plus de conscience? Bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Alex?
Alors là, il faudra une deuxième émission pour.
Il nous faut plein de temps pour
répondre à toutes ces questions.
Bah, disons que voilà qu'on n'a pas fait le tour de la question, ça c'est sûr, sur les enjeux autour de tout ça, politique, les enjeux de société, et que bah, il faudra revenir.
On reviendra
pour.
On mettra
pour
ça
continuer à débriefer sur la question.
Sur l'établi.
Ok, eh ben on va se quitter ici. Un petit morceau pour faire la transition avec l'émission d'après quand même. Petit morceau de punk polonais. Ça s'appelle Acid Drinker, Seek and Destroy.
Pour lancer à nos collègues, le témoin. Bon punk, bon kiff.
À la prochaine.
le train en otage, en remontant au wagon de tête. On a trouvé une valise qui pouvait faire une cachette. Le conducteur